Alors, notre premier orateur invité est le professeur Teddy Hans Pütgen. En passant, je vous prie, pour le bon déroulement de la soirée, de garder vos questions pour la période réservée à cet effet plus tard dans la soirée. On va avoir beaucoup de temps pour des questions et des discussions. Alors, Teddy Pütgen est professeur à l'École de génie électrique et électronique de la Nanyang Technological University à Singapour et directeur principal de l'Energy Research Institute, où il conduit présentement le Renewable Energy Integration Demonstrator. Il a auparavant été le premier directeur de l'Energy Center à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi que professeur Georgia Power à Georgia Tech. Teddy Pütgen est fellow de l'I3E, a été président de la Power and Energy Society de l'I3E et est lauréat de la médaille I3E Third Millennium. Il nous parle aujourd'hui d'un survol de la situation énergétique mondiale. Teddy.
Merci, Miguel. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je suis là, puisque j'ai eu aussi le plaisir et l'honneur d'être là lors de l'inauguration même de cet institut. Monsieur Trottier, c'est un plaisir de vous revoir et d'être de nouveau avec vous aujourd'hui. Le rôle que m'a assigné Miguel Anros est d'essayer de poser un peu le contexte énergétique d'une façon un peu plus globale avant que nous n'entrions dans des détails plus chiffrés. Donc je resterai plus au niveau stratégie, au niveau mondial. L'autre aspect, je me suis fait un petit peu mal voir parce que on m'avait demandé au départ de parler anglais, ce que je fais volontiers, mais ce que j'ai trouvé un peu dommage quand même de faire ici à Montréal. Donc nous sommes arrivés à un compromis bien suisse, c'est-à-dire que je vais essayer de parler français, mais mes slides seront en anglais. Je crois que la première observation qu'il faut faire lorsque l'on parle de l'énergie, c'est bien sûr l'explosion démographique. Et il est quand même intéressant de voir que nous sommes allés depuis le début des temps jusqu'en 1804 pour atteindre 1 milliard de personnes sur cette terre. Et ensuite, l'accélération a été de plus en plus grande. Et pour ceux d'entre vous qui vous souvenez un petit peu des mathématiques, ce que l'on espère maintenant, c'est que la dérivée seconde va devenir négative, c'est-à-dire qu'on va croître un peu moins vite d'un milliard à l'autre. Et je crois un des deux grands défis que nous avons ce siècle, si nous faisons bien les choses, ça sera la première fois depuis le début de l'histoire que peut-être nous arriverons à stabiliser la population sur un siècle et que cette population risquerait de diminuer. Je crois que c'est un des grands défis que nous avons devant nous, c'est cette stabilisation de la population. Et elle a un énorme impact sur les quantités d'énergie que nous devons avoir accès. En 2050, il est vraisemblable qu'il y aura toujours 1,5 milliard de personnes sur cette Terre qui auront un large accès à l'énergie, probablement à des coûts différents, probablement plus chers qu'aujourd'hui. Il y aura 5,7 milliards à peu près de personnes qui ont un accès pas satisfaisant, soit peu fiable, soit trop cher, soit inaccessible. Mais surtout, ce qui est embêtant et ce qui est grave, c'est qu'il y aura 8 milliards de personnes qui seront les nouvelles personnes qui vont habiter sur cette terre et qui massivement n'auront pas un accès suffisant à l'énergie. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, il y a 1,3 milliard de personnes sur cette terre qui n'ont aucun accès à l'électricité. Donc aujourd'hui, si vous allez voir une famille en Inde avec une ampoule basse consommation, vous l'expliquez que c'est une basse consommation qui dure longtemps, 40% de ces personnes vous diront c'est absolument remarquable, il y a juste un petit défaut avec votre image, nous n'avons pas du tout accès à l'électricité. Et je crois que c'est un des grands scandales qu'il y a aujourd'hui, et je vous invite, vous qui êtes dans cette salle avec nous, qui bénéficiez de ces infrastructures, de cette richesse, de cette qualité de vie, de ne pas oublier que c'est un des vrais défis que nous avons devant nous, c'est précisément celui-là. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de questions dans le domaine de l'énergie et qui tous sont importants. Bien sûr, il y a toutes les énergies primaires, il y a tout ce qu'on fait comme utilisation de ces énergies, les énergies distribuées, les services énergétiques et bien sûr toutes les transformations qu'il y a entre les unes et les autres. Et bien sûr, la recherche s'adresse à toutes ces questions-là, plus politiques, plus économiques. Mais le message que je voudrais vous donner aussi aujourd'hui, c'est que bien sûr, il faut des spécialistes en chacun, mais il est indispensable que nous gardions dans l'esprit qu'en fait, l'énergie est un aspect systémique. Il faut regarder toute l'échelle et voir quel est l'impact que l'on a si on regarde sur un aspect sur toute cette échelle-ci. Certains de ces chiffres vous sont connus. En point de vue énergie primaire, entre 1973 et 2012, on a à peu près doublé la mise. Il y a plus de charbon, il y a plus de gaz naturel, plus un peu moins de pétrole. La partie nucléaire hydro, c'est-à-dire sans CO2, a augmenté, triplé. Mais les augmentations restent quand même massives entre 1973 et 2012, qui sont les dernières statistiques officielles qui existent de l'Agence internationale pour l'énergie. Alors, si on regarde maintenant la partie au point de vue où ça se passe au point de vue région, il est important de voir qu'en 1973, 60% de la consommation mondiale était dans les pays industrialisés. On est aujourd'hui en dessous de 40%. C'est une autre affirmation que les défis énergétiques ne se passent pas dans nos régions industrialisées, elles se passent surtout hors de ces régions. L'autre aspect, c'est que si on fait un calcul très simpliste au point de vue efficience énergétique au niveau global mondial, elle est en train de baisser. Elle est en train de baisser tout simplement parce que l'augmentation de l'énergie se passe dans des régions du monde où l'efficience est à l'heure actuelle extrêmement mauvaise. Voilà les croissances à l'intérieur des pays industrialisés, c'est 130%, c'est plus du double en dehors. La Chine est passée de 8 à 19% de la consommation énergétique mondiale et l'Afrique a également beaucoup augmenté et c'est ça qu'il faut se garder de nouveau un peu dans l'esprit. L'autre aspect que nous avons devant nous, c'est que lorsque nous nous réunissons au sein de cette agence internationale pour l'énergie, c'est bien, mais les grands acteurs ne sont pas là. Tous les pays BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ne sont pas membres. Donc on a un vrai problème de gouvernance aussi au niveau énergie, puisque les vrais acteurs qui vont influencer le futur ne sont pas autour de cette table réellement en tant que membres institutionnels. Et ça, c'est un problème assez grave que nous avons devant nous. Alors l'autre aspect, bien sûr, c'est la production électrique. Et on voit qu'alors que le total a à peu près doublé, la consommation électrique a triplé. Ça, il faut s'en réjouir parce que ça veut dire que nous allons devant un monde électrique et plus que nous avançons, nous devons être de plus en plus électriques. Pas seulement parce que je suis électricien, mais c'est bel et bien par là que ça va passer, notamment au point de vue énergie renouvelable. La partie avec hydrocarbone diminué, le CO2 a diminué, donc on est des gens tout à fait formidables, pas tellement parce que là, depuis, entre 1973 et 2012, l'utilisation du charbon a à peu près été multipliée par 400%. Nous ne sommes pas en train d'aller, malheureusement aujourd'hui, vers un monde décarboné. Et en fait, cette consommation va rester un peu pareille au point de vue charbon, vu les énormes défis que ces pays émergents ont. Voilà un peu un slide qui donne la consommation par tête d'habitant. Si la moyenne mondiale est 1, on voit que la Chine a atteint 1, mais on voit que dans d'autres parties, l'Afrique, ce n'est que 40% et avec 10% seulement de croissance entre 1990 et 2000. Et ça, c'est un véritable problème. Rien qu'un chiffre, la consommation par tête d'habitant en Nigeria est en train de diminuer. Ça, c'est la croissance telle qu'on l'envisage pour le futur, avec en Chine, massivement, ça sera du charbon, en Inde, ça sera du charbon. Les Chinois font d'énormes efforts au point de vue énergie renouvelable, et les seuls endroits où il faut se réjouir, c'est effectivement l'Union européenne. C'est là où il y a le plus de richesses à l'heure actuelle, mais avec, en gardant dans l'esprit que c'est pas dans l'Union européenne que les grands défis au niveau mondial se trouvent, c'est hors de cette Union européenne. Je vais sauter ce slide parce que mon ami Miguel m'a signalé qu'il allait me fusiller rapidement. L'autre aspect qui est important, c'est que si vous regardez aujourd'hui le pays au monde qui a fait le plus de progrès au point de vue diminution de CO2, ce sont les États-Unis et d'assez loin. Ceci se passe parce que les Américains sont passés très largement au point de vue production électrique de charbon vers les gaz de schiste. Et ceci est une transformation énorme, et vous voyez d'ailleurs que cette diminution est forte. Et l'autre diminution qui est en route, c'est celle de la Chine également. Et il y a probablement un espoir que cette réunion COP en décembre 2015 à Paris aura des résultats, parce que pour la première fois, tant la Chine que les États-Unis ont compris qu'ils devaient jouer un rôle, et on aura probablement une issue positive, et j'y crois beaucoup, uniquement par cette statistique-là. Donc, je crois que la conclusion de tout ceci, c'est qu'on ne peut pas demander aux pays émergents de faire un effort au point de vue énergétique au titre de ce qui se passe au niveau mondial. J'aime toujours montrer ce slide, on pourra peut-être convaincre l'émir, le cheikh de Dubaï, qu'il n'a pas besoin d'aller skier quand il fait 35 degrés à l'ombre. Vous aurez plus de peine de demander à cet hôpital de faire un effort. Vous pourrez demander à M. Schwarzenegger de ne pas avoir deux Humvees dans son garage. Vous aurez plus de peine de demander à ce colporteur du Vietnam qui n'a pas besoin de meilleurs transports. J'adore ce transparent parce que le mec a un téléphone portable. Donc, je crois qu'il faut distinguer deux grands défis que nous avons devant nous. Dans les pays industrialisés, il nous appartient très clairement de devenir plus sobres, plus rationnels dans l'utilisation de l'énergie. Je n'aime pas la notion d'efficience énergétique. Parce que beaucoup de choses que nous devrons faire dans le futur, notamment le stockage, n'est pas efficient au point de vue énergétique. Donc le vrai défi, ce n'est pas l'efficience énergétique, c'est une utilisation rationnelle de l'énergie et de faire ceci sans péter la future économique et la qualité de vie des générations à venir. Donc ce seront des technologies chères pour des pays riches. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Par contre, dans les pays émergents, il faudra bel et bien que nous fassions face à leur aspiration de meilleure qualité de vie, car il ne faut pas oublier une chose, depuis 20 ans, l'Internet a été un énorme égalisateur. Aujourd'hui, les pays du monde, en Afrique, en Chine, en Inde, savent comment nous vivons. Je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, mais ont des aspirations de vivre comme nous. Pas forcément la bonne idée, mais en tous les cas, c'est leur aspiration. Et donc, au point de vue énergétique, ça va avoir un effet énorme. Par contre, ce qu'il faudra que nous fassions, c'est de faire pour ces pays-là des technologies qui soient bien adaptées. Et j'ai un énorme plaisir de travailler justement à Singapour sur un tel projet, d'essayer de mettre au point des technologies qui soient bien adaptées pour des îles isolées aux Philippines, en Indonésie, etc. Il faut que nous fassions, nous, pays industrialisés, l'effort de faire des bonnes technologies pour ces régions-là. Pour l'instant, on ne le fait pas. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur la volatilité des prix du pétrole, d'autres orateurs le feront, mais voilà là, depuis 1946 à 2015, l'évolution, et on s'aperçoit donc qu'il y a d'énormes variations qui ont eu lieu, donc on continue, et la question qui m'est souvent posée, est-ce qu'il faut que nous changions de stratégie? La réponse est clairement non. Les stratégies qui se montrent au point de vue énergétique sont des stratégies sur 10, 20 ans, et il ne faut pas essayer d'ajuster ces stratégies à ces variations-là qui sont souvent politiques et pas tellement économiques et énergétiques. L'autre grand défi que nous avons devant nous, c'est la bifurcation au point de vue nucléaire. Vous avez certainement entendu que certains pays en Europe sortent du nucléaire et il y a aujourd'hui à peu près 440 centrales nucléaires qui fonctionnent dans le monde, il y en a 100 aux États-Unis, dont plus de 75 ont déjà permission d'aller à 60 ans. Il y en a en France, bien sûr, 58 qui tournent tout le monde. L'Allemagne a un peu arrêté. Le Japon, bien sûr, a été forcé d'arrêter. Et en 2010, avant l'accident de Fukushima, le nucléaire contribuait à peu près 13,5% de la production mondiale d'énergie électrique. À peu près la même chose que l'hydraulique, d'ailleurs. À peu près la même chose. Mais il faut savoir que alors, certains pays cherchent à sortir. Dans le monde, ce n'est pas le cas. On est en train aujourd'hui de construire beaucoup. Les Chinois ont 27 centrales en construction, il y en a d'autres. Ce qui est, à mon avis, à moi, un peu plus ceci, c'est certains des Émirats qui sont en train de construire, qui n'ont aucune connaissance à l'heure actuelle des technologies. Et il faut savoir qu'il y en a planifié 180. Donc le monde, dans son ensemble, n'est pas en train de sortir de l'énergie nucléaire. Mais l'autre aspect que je crois être important, c'est que les pays comme nous qui avons une certaine connaissance du nucléaire, il nous appartient à nous, pays industrialisés, avec cette connaissance, de la partager avec ces pays émergents. Et là, nous avons une véritable responsabilité, je crois, sociale, technique, que nous devons relever. Je vais vous laisser lire rapidement. Fessenheim est la plus vieille centrale nucléaire de France et le président Hollande a décidé, il y a déjà quelques années, qu'elle allait fermer fin 2016. Et voilà les remarques d'un certain nombre qui ont été faites par une seule personne. Je vous laisse les lire très rapidement. Ah, je n'ai pas le téléprompteur de mon ami Miguel, mais qui pensez-vous a fait cette déclaration? Vous, vous êtes en train de vous dire, c'est un industriel, un grand industriel pour lequel cette sortie poserait d'énormes problèmes. Il s'agit en fait à l'époque de Bernard Thibault, qui à l'époque était le secrétaire général de la CGT, qui est la plus grande centrale syndicale française, qui appartient en fait au pays communiste, au groupe, parti communiste. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous prenez des décisions telles que l'arrêt d'une centrale nucléaire, vous affectez directement des gens qui travaillent dans ces centrales, qui sont hautement qualifiés, qui dépendent de ceci. Ces centrales sont souvent placées loin de tout autre centre. Donc c'est l'aspect sociologique de l'énergie qui croit importante. Vous ne pouvez pas prendre des décisions énergétiques dans un espèce de vacuum sans tenir compte de l'environnement social qui l'entoure. Alors, nous en Suisse, nous sommes en train d'essayer de sortir de l'énergie nucléaire. En fait, la Suisse a été le premier pays au monde, après Fukushima, d'avoir décidé une sortie du nucléaire. L'Allemagne a décidé un peu après, mais sont sortis plus vite que nous. Les Suisses sont des gens relativement lents. Voilà la production électrique dans un certain nombre de pays. Voilà la Norvège qui est pratiquement que hydraulique. Je suis né en Suède et ça me peine toujours de dire ceci, mais les Norvégiens ont remarquablement fait les choses au point de vue énergétique. Et je salue ma collègue de Norvège ici. Voilà deux pays voisinants que sont l'Autriche et la Suisse. Le bleu, c'est de l'hydraulique. Le rouge, ici pour l'Autriche, c'est du fossile, pratiquement surtout du charbon. Et ça, en Suisse, c'est du nucléaire. Et le résultat des courses est relativement simple. Les deux pays sont voisins, sont tous les deux alpins, aucun accès à la mer, avec une économie très similaire, vous voyez, avec des performances très similaires. Avec la seule différence, c'est que l'Autrichien émet à peu près 7,7 tonnes de CO2 par habitant, et le petit Suisse 5,2. Et la seule différence, elle est là. Donc un des grands défis que la Suisse doit se poser à l'heure actuelle, c'est de savoir, est-ce que nous arriverons à sortir de l'énergie nucléaire sans ressembler aux Norvégiens au point de vue CO2. Ils sont beaucoup mieux que nous au point de vue ski, donc ça serait pas mal, mais au point de vue CO2, c'est pas la bonne réponse. Donc un des grands défis lorsque l'on veut prendre de telles décisions, c'est de savoir énergétiquement et émissions comment est-ce que ceci va s'équilibrer. C'est un des défis de notre siècle. Alors, je voudrais faire quelques observations sur les énergies renouvelables. Il est indiscutable, je crois, aujourd'hui, que le virage dans les pays industrialisés vers les énergies renouvelables est pris. On ne reviendra plus à ce niveau-là. Mais il faut quand même garder certains aspects. Ceci est la progression du photovoltaïque installé, et vous voyez que dans certains pays, comme l'Allemagne, comme l'Italie et autres, dans les pays européens, ça s'est beaucoup aplati. Tout simplement parce que ce qui était facile à faire, on a déjà fait. Et on voit d'ailleurs que la croissance qui est ici, sur cette échelle, est en train de diminuer. L'autre aspect qui est là, c'est la partie éolienne. Et là, vous voyez les installations qui sont faites année après année, et vous voyez que durant les dernières années, il y a eu quand même un certain plat qui s'est fait, tout simplement parce que ces technologies sont relativement chères, et en fait, ont une certaine résistance parce que les gens ne veulent pas voir des éoliennes. Tout le monde est pour des éoliennes, mais de l'autre côté de la vallée, pas chez moi. Et donc on voit qu'il y a un accroissement qui est relativement fort, avec quand même aujourd'hui installé dans le monde à peu près 370 gigawatts qui sont installés. Alors les enthousiastes me disent, c'est vachement bien, parce que 370 gigawatts, c'est 370 centrales nucléaires. Non. Et je voudrais juste faire un petit exemple très simple. Si on fait... Il faut savoir que lorsque l'on a besoin de choses, on a besoin tant d'énergie que de puissance. Et donc il y a une notion de install capacity, qui est la puissance installée de la machine. L'autre, c'est ce qu'elle peut réellement délivrer. Et donc, on a ce qu'on appelle un facteur de charge qui démontre, en fait, quelle est la proportion du temps où cette machine fonctionne à plein sortie. Pour une centrale nucléaire, c'est de l'ordre de 90%. Pour du photovoltaïque dans des régions où il y a beaucoup de soleil, pas ici au Québec, c'est 20. Et pour l'éolienne où il y a beaucoup de vent, c'est de l'ordre de 40, surtout en mer. Et donc, si on se pose maintenant la question de savoir si on veut remplacer une centrale de 1 gigawatt, qu'est-ce qu'il faudrait faire au point de vue photovoltaïque et éolien? Et la solution que j'ai retenue, c'est qu'on va faire 50% photovoltaïque et 50% avec du vent. Et donc, on s'aperçoit, pour faire un long story short, que plutôt d'installer 1 gigawatt de nucléaire, il faudrait en fait installer 3,5 gigawatts de photovoltaïque et d'éolien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte parce que les puissances installées qu'il faut faire sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Voilà la situation en Allemagne. En 2012, c'est les 6 premiers mois de l'année avec toutes les variations et du photovoltaïque et du vent pris ensemble. Et on voit qu'en Allemagne, on a continué un peu à installer. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 6 mois-là, le plus faible contribution est moins de 1%, mais la plus forte contribution qu'on a jamais eue sur les 6 mois ne représente pas 50% de la puissance installée. Ça vous démontre aussi la surcapacité qu'il faut installer. Et voilà la même figure, mais que sur 2 semaines, simplement ça, le jaune, c'est du photovoltaïque, qui bien sûr ne marche pas de nuit, et superposé, le bleu, c'est de l'éolien. Donc le vrai défi aujourd'hui du photovoltaïque, ce n'est pas les panneaux solaires. On sait en construire. Certes, elles auront un peu un rendement qui vont progresser. Certes, leur coût va encore diminuer, mais ça ne sera plus spectaculaire. Et la même chose est vraie pour le vent. Donc le vrai défi aujourd'hui des énergies renouvelables, c'est le stockage. Et je crois que pour vous, il y a quand même un certain nombre, vous êtes tous plus jeunes que moi, mais il y a un certain nombre de gens qui sont réellement plus jeunes que moi. C'est là qu'il faut aller investir. Le vrai défi aujourd'hui, c'est dans tout ce qui est stockage. Dernière remarque que je voudrais faire, c'est sur là où il y a véritablement à faire quelque chose au point de vue consommation, c'est tout ce qui est chauffage, air conditionné et ventilation dans les bâtiments. Rénover des bâtiments, c'est bien, et c'est ce qu'on essaie de faire. Par contre, le vrai défi, c'est de rénover des quartiers entiers. Et là, il faut avoir un peu de courage politique. J'espère qu'il n'y a pas trop de politiciens dans la pièce, parce que sinon je ne sortirai pas vivant. Mais là, il faut avoir un véritable courage de changer la manière dont on fait ceci. Voilà la production en Suisse. C'est un peu différent du Canada, mais pas tellement. Ça, c'est du nucléaire. Et le bleu, c'est de l'hydraulique. Et l'hydraulique en Suisse donne le plus en été. Et comme vous ici au Canada, la consommation électrique est surtout forte en hiver. Et donc on s'aperçoit que ce qu'on appelle ces fameux bâtiments zéro énergie, ce n'est pas la vraie question qu'il faut se poser. Parce que ces bâtiments zéro énergie produisent en été ce qu'elles consomment en hiver. Or, notamment en Suisse et le Canada, ce n'est pas très différent. Lorsque ces maisons arrivent avec beaucoup de photovoltaïque en été, ce n'est pas tellement là qu'on a besoin d'énergie. Donc la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas les bâtiments qui sont zéro énergie, ils doivent être zéro puissance. Et ça veut dire qu'il faudrait en fait que ces bâtiments aient leur propre stockage d'énergie intégré dans les bâtiments. Mais la différence, c'est que tous ces feed-in tariffs que nous avons aujourd'hui encouragent l'énergie sur des périodes très longues, ce qui est une erreur. Il faut encourager l'investissement et il faut encourager que l'investissement adossé à du stockage. Ce qui est une révolution au point de vue politique, mais si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à des résultats. Je donne un exemple très simple, c'est 2 bâtiments qui ont des configurations, tous les deux avec la même puissance installée. Si vous les prenez séparément, vous n'avez pas de synergie. Si par contre vous les intégrez dans un même réseau, là vous avez une énorme synergie. Et donc le vrai défi dans les pays industrialisés, le premier, c'est le stockage d'énergie. Le deuxième, c'est de concevoir non pas des bâtiments au point de vue énergétique, mais de concevoir des quartiers entiers. Et pour l'instant, on ne le fait pas. Dernière remarque que je voudrais faire, c'est les gaz de schiste. Il y aura d'autres personnes qui vont en parler, mais j'ai fait faire, lorsque j'étais encore à l'école polytechnique en Suisse, un calcul bête et méchant. Nous avons tout simplement pris les gisements de schiste qui étaient prouvés, et nous avons dit, si on extrait tout le gaz dans ces gisements-là, qu'on les passe dans une centrale à gaz à cycle combiné, de l'ordre de 60% d'efficience, combien d'électricité est-ce que l'on pourrait faire avec ces gaz de schiste? Et pendant combien d'années, cette électricité-là suffirait à toute la consommation du pays? Et vous voyez que les chiffres sont énormes. Pour les Américains, aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, on est à plus de 50. Dans certains pays, comme le Mexique, on est à 400. En Pologne, on est à peu près à 200 ans. Ces chiffres ne sont certainement pas justes. Mais ce que j'ai voulu sortir par ces chiffres-là est la constatation suivante. Ces chiffres sont tellement énormes qu'on ne peut pas tout simplement se permettre de dire « on ne va pas faire ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire beaucoup de recherches, certainement, au point de vue d'extraire ces gaz avec un environnement, un impact environnemental acceptable, compte tenu des volumes. Et si vous regardez, là je terminerai par là, en quelques minutes, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de devenir pratiquement autonomes au point de vue gaz. Puisqu'on est même en train d'envisager de reconstruire certains de leurs centrales d'importation de gaz liquéfié pour pouvoir l'exporter. Donc de les reconstruire en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point de vue économique, les États-Unis sont devant une véritable révolution, et c'est pourquoi vous voyez d'ailleurs que le dollar est en train de s'apprécier d'une façon assez significative à ce niveau-là. Création d'emplois. En même temps, les Européens, surtout l'Allemagne, ont mis des feed-in tariffs énormes. Il faut savoir que l'année passée, probablement en Allemagne, l'économie allemande a injecté 24 milliards de dollars dans les énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes. 24 milliards. Mais ce n'est pas le gouvernement qui a injecté ça, ce sont les consommateurs. Tout consommateur aujourd'hui en Allemagne paye 6,4 centimes d'euros de plus par kilowattheure. 6,4 centimes d'euros, c'est énorme. L'autre conséquence, c'est que comme il y a un énorme influx de temps en temps au point de vue énergie renouvelable, des centrales au gaz neuves aujourd'hui ne tournent plus parce que leur durée d'utilisation annuelle n'est pas assez longue. Donc l'Allemagne s'est remise à réouvrir des centrales au charbon. L'Allemagne est en train de réouvrir des mines de charbon à ciel ouvert. Il y a deux villes qui se trouvent sur l'itinéraire de ces mines à ciel ouvert qui vont être démontées et transférées en 2016. Et l'Allemagne est en train d'importer massivement du charbon aujourd'hui. Et d'où vient ce charbon ? Les États-Unis. Parce qu'il n'est pas question pour l'économie américaine de fermer des mines de charbon. Donc ces mines de charbon doivent continuer, c'est de l'emploi. Et donc les Américains sont en train d'envahir l'Europe avec du charbon extrêmement bon marché. Je vous laisse voir l'impact environnemental en Allemagne au point de vue rien que la production et bien sûr tout le transport de ce charbon à travers l'Atlantique. Voilà un peu un tour d'horizon assez large de quoi où on en est. En conclusion, il nous appartient, nous, pays industrialisés, de bien sûr continuer à nous regarder le nombril. On fait ça assez bien. Mais surtout de regarder ce qui se passe dans les pays émergents. De se poser des questions, quelles sont les technologies qui sont adaptées pour ces pays-là. Pas forcément des techniques moins bonnes, mais des techniques adaptées. C'est une énorme opportunité de développement économique. Je crois qu'il nous appartient dans nos pays d'être plus rationnels au point de vue énergie, c'est-à-dire notamment d'avoir des décisions politiques plus courageuses que bêtement faire des feed-in tariffs, au point de vue investissement, au point de vue stockage. Et il nous appartient aussi de regarder plus d'une façon intelligente qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos bâtiments. Voilà un peu un tour d'horizon très large, je crois, où sont les grands défis. Et c'est avec plaisir que je laisse maintenant la parole à des experts qui y rentreront en plus dans certains détails. Merci à vous.